Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à un autre épisode de Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez toujours aussi bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Annette Vielle, une grande marcheuse au fascinant parcours. Annette est née au bord du Saint-Laurent, à Lillet-sur-Mer, ce qui la marquera pour le reste de ses jours. Après ses études en histoire de l'art à Québec et un séjour à Ottawa, elle développe une expertise muséologique qui sera largement mise à profit à travers de nombreux projets avec Parc Canada. Son expertise sera par la suite sollicitée pour des conférences et des projets un peu partout sur la planète, dont en particulier en France, où elle enseignera la muséologie à l'Université de Bourgogne à Dijon, puis au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. De retour à Québec depuis 2007, elle y poursuit sa carrière comme consultante, tout en marchant plusieurs heures chaque matin sur les bords de ce fleuve qu'elle chérit tant. Et pour être en contact encore plus intime avec ces lieux, elle y marche pieds nus, aussitôt que la température le permet. Je me suis rendu chez elle à Québec en compagnie de notre chroniqueur Michel O'Neill, notre serein pèlerin, avec qui nous avons également enregistré le plus récent volet de sa chronique « Marche et politique » intitulé « Du pain et des roses » que nous vous présentons en fin d'émission. Bonne écoute! Alors, Annette, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour Marcher vers le bien-être.
Ça me fait plaisir.
Parlez-nous d'abord de cette belle habitude que vous avez de marcher le long du fleuve et, selon la saison, bien sûr, pieds nus. C'est quoi? Comment?
Je l'appelle ma drogue.
Ah.
Parce que le matin, quand je me réveille, que j'ouvre mes yeux à la vie, j'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin d'être imprégné de la nature. Et j'ai la chance d'habiter pas trop loin du fleuve. Donc, je pars à pied. Beau temps, mauvais temps. Mauvais temps, c'est encore mieux, il y a moins de monde encore. Et, et je pars et je me laisse prendre par la nature, selon les saisons. C'est sûr que je marche pas pieds nus l'hiver. Mais dès le moment où la température s'adoucit, j'aime sentir l'énergie de la terre en direct sur mon corps, en toute simplicité.
C'est tout. Ça vous fait quoi comme sensation, l'énergie qui passe par les pieds?
C'est comme quelque chose, c'est comme sentir la vie dans l'ancrage de ce qu'il y a de plus profond. Mm-hmm. C'est même un mystère quelque part. Et ce que j'aime du mystère, c'est que j'ai arrêté de toutes les comprendre. C'est la sagesse du vieillir, accepter qu'il y a des parties de mystère dans la vie qui nous habitent et par lesquelles nous sommes habités, c'est tout.
Donc, vous sentez que vous avez vraiment les deux pieds sur terre?
Ah, complètement.
Sans jeu de mots,
complètement,
c'est vrai?
Complètement. D'autant que les gens me disent, en fait, ça utilise les deux parties de mon cerveau.
Hmm.
Parce que je dois me concentrer où je mets le pied. Et
ben
en
oui.
même temps, je m'ouvre partout autour de moi. Donc, mes deux cerveaux, ils jasent ensemble. Attention, oui, OK, tu peux rêver. Et on a du plaisir. C'est un plaisir.
Donc, les deux s'entraident.
Ah, complètement. Complètement, je les adore.
Comment vous est venue l'idée de marcher le long du fleuve?
Ah ben, je suis habitée par le fleuve. Le fleuve fait partie de moi. J'ai ouvert mes yeux à Saint-Jean-Port-Joli, le long du fleuve. J'ai grandi à côté du fleuve. Dans tous les moments difficiles de ma vie, le fleuve, c'était mon amant quelque part, mon compagnon, celui à qui je partage mes pas.
Votre compagnon de route.
On peut parler ainsi. Et ce que j'aime du fleuve, c'est qu'il a sa source, mais toujours il va à la mer. Le fleuve s'en va en mer.
Oui.
Donc, le fleuve, c'est un élément de la nature qui est ouvert sur l'immensité. Et ça, ça me séduit, ça me fascine, comme les étoiles au cosmos, c'est tout.
Et vous placez sur votre page Facebook, quoi, tous les jours, je pense, une photo que
je
vous prenez.
Je suis une cliqueuse.
Vous êtes une cliqueuse. Bon.
Et pour moi, c'est comme important avec tout ce qu'il y a sur les Facebook, les partages. Je juge pas ça, mais je trouve que de partager la nature, là où je suis, la ville aussi, parce que je voyage dans différents lieux, c'est un cadeau, simplement, et les gens qui les voient, il y a beaucoup de gens qui me disent « on ne te met pas, j'aime, mais le matin, en se levant, on va voir ce que tu as mis ».
Est-ce qu'il y a des gens qui, tous les matins, Oui. Vous donne un petit coucou?
Non, pas nécessairement le coucou. Et non. Ça me donne encore plus de liberté.
Ah oui.
Parce que je n'attends rien.
Mm-hmm.
Je fais juste capter ce qui est là et il s'en va dans l'univers Facebook, Instagram, Twitter, j'aimais. Puis c'est tout. C'est gratuit.
La nature vous passionne depuis toujours, longtemps?
C'est plus qu'une passion. Je suis nature.
Vous êtes nature.
Oui, je suis nature. Je suis un animal à deux pattes. Je fais partie de cette terre dans son évolution depuis le règne minéral, végétal, animal. Et j'ai une conscience. Donc, j'ai quelque chose d'autre qui m'amène vers ailleurs. C'est tout. Mais je suis d'abord un être naturel.
Et vous avez, du côté professionnel, travaillé avec la nature,
oui.
N'est-ce pas?
Oui, j'ai eu envie, je suis une historienne de l'art par accident parce que je voulais aller en sociologie. J'ai raté mon examen de mathématiques, j'avais oublié de noter. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, je vais essayer d'autres choses. Et tout à coup, je me suis ramassée en histoire de l'art, fascinée par cette capacité qu'a l'être humain de matérialiser la sensibilité, de matérialiser ce qui nous dépasse. Et je me suis particulièrement intéressée aux gens dans les années 70 qui, au lieu d'avoir des œuvres qui seraient exposées dans des musées, les ont fait dans la nature. C'est le mouvement du Land Art.
Land Art.
Et il y a quelqu'un aux États-Unis, un artiste dont j'oublie le nom, qui a dit « It's not about landscape, it's about art ». Les conservateurs ne respectent pas notre pulsion.
Mm-hmm.
Et ça m'a interpellée et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai eu la chance d'aller travailler dans les parcs nationaux et c'est un cadeau de la vie d'être payé pour préparer le plaisir des gens.
Et vous avez étudié en muséologie, travaillé chez Parcs Canada.
Oui.
On ne voit pas tout à fait le rapport au début.
Oui, il y a un rapport absolument extraordinaire parce que les parcs nationaux comme les lieux historiques sont reconnus sur le plan international comme des entités muséales parce que ce sont des lieux de conservation et de protection. Alors au lieu d'être dans une salle et dans une réserve, la réserve est à l'état pur. Préparer la création du parc marin pour protéger le beluga qui est une espèce menacée, c'est extraordinaire de travailler à protéger le vivant, protéger la vie.
Donc, c'est votre amour de la nature, c'est votre appréciation grandissante de la nature qui vous a amené à jouir de cette nature, comprendre la nature.
De faire corps avec elle.
De faire corps avec
et
elle.
Et pour moi, je ne veux pas penser que dans mes paroles, je renie l'histoire de l'art et les musées. Au contraire, je suis fascinée par cette capacité qu'a l'homme de matérialiser des éléments qui lui permettent d'être à un niveau autre. Ça me fascine.
Eh bien, justement, vous avez, si je peux dire, marié la muséologie et la nature,
oui,
les parcs,
oui.
Et vous êtes devenu, en vos propres mots, une MTT.
Oui,
alors, c'est quoi une
oui.
MTT comme VTT?
C'était un jour pour ne pas être dans toujours la case dans laquelle on veut nous mettre. J'ai dit, je suis une muséologue. Qu'est-ce qu'une muséologue? C'est quelqu'un qui a un intérêt pour les lieux inspirés par les muses. Hein? L'origine chez les Égyptiens, chez les Romains, dans les muses, il y avait les mathématiques, le théâtre, bon, il y avait tout ça. Et je me suis dit, MTT, ben voilà, je suis une muséologue tout terrain, comme il y a des VTT. Au début, les gens disaient, ben voyons, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Puis aujourd'hui, les gens trouvent que ça fait sens quelque part. Le musée n'est pas fermé sur lui-même. Le musée est une entité qui est ouverte sur sa communauté, sur son territoire, sur son rayonnement. Donc, c'est un peu là-dedans que je me suis inscrite, tout simplement.
Est-ce que la nature est un musée vivant, sans jeu de mots, encore une fois, à ciel ouvert?
Si on regarde tout ce qui se passe sur la planète, on devrait répondre oui.
Oui.
Pour en prendre soin. Pour en prendre soin et faire corps avec, tout simplement. Naturellement, je dirais.
Nous avons évoqué dans une pré-entrevue notre bon ami Buckminster Fuller aux États-Unis.
Oui.
Et vous avez un lien assez spécial vu l'Expo 67, le dôme géodésique qui était l'ancien pavillon des États-Unis sur l'île et conçu par notre ami Bucky pour les intimes.
Il m'a fasciné, ce Buckminster Fuller. Et quand on m'a invité, bien sûr, il y a eu l'Expo 67, mais quand on m'a invité à prendre en charge une réflexion, une orientation conceptuelle sur la réhabilitation de cette biosphère En 1991, je me suis encore plus intéressée à qui il était et de découvrir cet homme qui un jour était à l'université et avait de la difficulté et on l'a un peu mis en pénitence pour l'envoyer à Sherbrooke. Il a commencé sa carrière à être un intermédiaire entre les Québécois et les gens de l'usine qui avaient une usine avec des pièces de Belgique qui étaient là. Donc, comment faire ça? Et donc, il a découvert le Québec aussi. Et je me disais, il est retourné chez lui. Et puis un jour, que le gouvernement américain, alors qu'il a 70 ans, je crois, lui demande de faire le pavillon américain, il vient de réfléchir, on en a discuté ensemble, hein, la dynamique de l'action, en 1937, qui fait une voiture sur trois roues, et puis après la carte, et puis la maison, et puis le gouvernement américain reconnaît ça, mais le gouvernement américain n'accepte pas son concept, qui était un lieu où à l'intérieur, on avait des images de la nature et on prenait conscience de la fragilité et on devait voter ensemble. Le gouvernement américain a refusé son concept. Et heureusement, ce sont quand même des gens qui avaient des élèves de Walter Gropius et de Miss Mandero qui ont fait le génie créateur. Mais de travailler à revenir à l'esprit de Fowler et à Montréal, inscrire un lieu de conscience environnementale qui aujourd'hui fait partie de l'espace de vie, c'est formidable, c'est là. On est revenu à sa pensée.
Et qui est encore comme un musée aussi, là, où on peut
voir
aujourd'hui.
Oui, c'est le premier, c'est le premier. Il y a eu le titre du premier musée de l'environnement. Et il a été fait, l'architecte qui a travaillé, c'est Éric Gauthier, qui actuellement est en charge du pavillon pour l'espace Riopelle à Québec. Et tout est pensé dans le développement durable. Alors, quand on marche à côté de la biosphère, c'est extraordinaire de penser que tout a été pensé. C'est la géothermie, l'épuration des eaux par les plantes. Il a cette partie faire corps avec la nature qui est l'esprit de Buckminster Fowler.
Encore musée nature.
Complètement.
Ça se rejoint toujours.
J'y échappe pas. Ça fait partie de ce qui me rattrape toujours, même si parfois je veux le fuir.
Alors, la marche, c'est votre drogue. J'aimerais qu'on explore un petit peu. D'abord, pourquoi est-ce une drogue dont on ne peut pas se passer?
Ben c'est ça, une drogue, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et moi, j'aime sentir ce besoin de faire corps, comme je disais, avec la nature et avec la fantaisie aussi, entendons-nous.
Ah oui? Comment?
Oui, je me prends pas au sérieux là-dedans, là, quand je fais mes photos et puis que je vais mettre les pieds dans l'eau et puis que là, je vais... Il y a une partie de fantaisie, il y a une partie de plaisir. Je me mets en théâtre, personnellement, à jouer avec ça. Et je dirais, tous les endroits me fascinent. J'étais à Paris, là, j'ai traversé Paris des 20 kilomètres par jour que je faisais, juste pour sentir la ville, sentir les gens, aller dans un petit coin qu'on ne soupçonne pas.
Oui, ben sentir, je vous arrête parce que vous avez une très belle... On reviendra à Paris tout à l'heure, on ne s'inquiète pas, parce que vous avez partagé, dans notre pré-entrevue, une formule par laquelle vous dites « ressent, apprend ». Intègre. Je pense que tout y est. Vous avez parlé de ressentir à Paris, mais peut-être aller un tout petit peu plus loin dans cette explication de la formule hein, « ressent, apprend, intègre ».
C'est ça, mais c'est ma folie, parce que quand je travaillais avec les gens dans les parcs nationaux, on avait l'obligation de communiquer un message. Par exemple, Forion, l'harmonie entre l'homme, la terre, la mer. Il faut quand même dire que moi, j'ai été chargée de faire les expositions pour rappeler le travail des pêcheurs. On les a expropriés et il faut que je parle du travail qu'ils ont fait. Je suis émue, là, même quand j'en parle, parce que j'ai travaillé avec eux, on a fait des photos, on a fait tout ça. Et je réalisais tout à coup que... il y avait toujours une rupture en ce que j'appelle le récit nation puis le récit citoyen. Les gens bien pensants donnent une belle formule. Et là, vous avez la tâche de mettre en valeur leur belle formule. Mais la belle formule n'est pas nécessairement la voix du territoire. Alors moi, ça a été mon travail de jouer avec ça. Et c'est pour ça que j'ai développé une approche, grâce à l'histoire de l'art, du ressentir de l'œuvre, le ressentir de la nature, qui est esprit du lieu, objet de connaissance, matière à réflexion. D'où sens, science, conscience. On ressent, on communique un élément de connaissance et on réfléchit ensemble. Parce que le mot « ensemble », pour moi, est une valeur fondamentale de la communauté du territoire. Alors, c'est dans ce sens-là que les trois éléments sont venus. Puis, ils m'habitent. Hein, quand je marche, j'ai toujours centre dans le
toujours.
Moi, quelque part.
Ben, toujours.
Toujours quelque part. Pour éviter que je dérape trop dans mes folies, là, j'ai besoin de la science pour me ramener les pieds sur terre.
Les deux pieds sur terre, encore une fois.
Oui, mais la physique quantique m'inspire beaucoup par les temps qui courent.
Alors, c'est une façon de se reconnecter à la vie.
Oui.
C'est ça?
Oui, c'est ouais. Pas se reconnecter, c'est demeurer connecté.
Demeurer connecté, j'aime bien.
Oui,
demeurer...
oui.
On l'a jamais quitté.
Non. Non,
elle on l'a perdu de vue, mais...
Oui. Ben, elle nous le rappelle.
Elle nous le rappelle.
Elle nous rappelle parfois avec beaucoup de souffrance.
Mm-hmm.
Il faut accepter ça aussi.
Quand vous marchez sur le bord du fleuve ou en d'autres occasions, c'est aussi une espèce de marche méditative. Vous réfléchissez beaucoup.
Oui.
Vous ressentez beaucoup.
Oui, oui, même que j'écris.
Et que vous écrivez. Bon,
oui.
Parce que de force, là.
Non, vous allez voir, on a des nouvelles technologies, c'est formidable. Oui. Moi, quand j'ai eu mon premier Mac en 87, j'ai senti que je me libérais de beaucoup de choses, parce que l'ordinateur pouvait travailler pour moi. Et donc, non, toutes mes idées me sont venues en marchant, mes titres de présentation,
vraiment.
Toujours, oui. toujours. Je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce qui se passe, puis tout à coup, en marchant, ça apparaît. Et là, je me dis, waouh, quel cadeau!
Oui.
Et là, maintenant, ce que je fais, c'est qu'avec mon téléphone, je prends dans notes, je mets le micro et je me dicte mon texte.
C'est intéressant. Vous marchez pendant, disons, quelques minutes ou une heure ou deux. Est-ce que l'idée met du temps à venir?
Deux heures à peu près.
Bon, est-ce que l'idée prend du temps à venir? Est-ce que ça mûrit?
C'est jamais pareil. C'est ça qui est la magie. Il peut ne pas en venir, il peut en venir. C'est la magie.
Mm-hmm.
Et ça me plaît justement, que ça soit pas tout contrôlé, tout programmé. Là, qu'on se parle, on échange, dire c'est quoi votre recette? Il n'y a pas de recette. Chacun va trouver à l'intérieur de lui. Oui, il y a des pistes. J'apprenais, là, parce que je viens de m'acheter des nouvelles bottes, comment mieux les lacer. Et j'ai trouvé ça très intelligent qu'on me donne j'aurais dû penser à ça avant. Donc oui, être ouvert à différentes formules, à différents éléments. En fait, ne pas rester... La vie, c'est vivant. Donc, ne nous figeons pas dans une méthode ou dans un truc. Restons ouverts à la vie, dans ce qu'elle est.
Vous aimez beaucoup marcher dans la forêt? Ou vous préférez marcher dans la forêt?
Non. J'aime toute la nature. J'aime les lieux. Et j'ai la chance que mon fiston et sa conjointe ont acheté avec des copains au nord de Longue-Rive, dans une zec. Et j'adore aller là, sur le bord d'un lac, et marcher dans le rang de Gravel, dans la route de Gravel. Là. Donc la forêt m'inspire là, comme le fleuve m'inspire, et comme je disais, la ville m'inspire. Marcher à Barcelone, là, se laisser prendre par l'odeur de la ville, par la folie, ça fait du bien.
Ça fait beaucoup de bien parfois. Oui, un peu de folie. Est-ce que vous aimez marcher seul ou avec d'autres? Ou les deux, encore une fois?
J'ai préféré les marcher seuls parce que je pense pas que l'inspiration viendrait de la même manière si j'étais à deux, à trois, à quatre. Mais je suis d'accord pour marcher ensemble.
Pour échanger, pour partager.
Ah ben oui, ben oui.
Partager,
ouais. Mais la marche est beaucoup habitée par mon silence. Et à partir du moment où on est avec quelqu'un d'autre, marcher avec quelqu'un d'autre qui garderait le silence aussi en partie, ça me plairait.
Oui.
Comme faire de la voile. J'ai fait de la voile et sur un bateau, on peut parler à l'apéro, mais d'abord et avant tout, moi, j'aime sentir la nature dans sa force. C'est dans le silence que je la ressens.
Vous avez marché de longs parcours, peut-être?
J'ai jamais fait ça.
Un compostel ou un pèlerinage?
Non, je me suis toujours dit que je finirais par le faire. Il y a une partie de moi qui aimerait ça. Puis en même temps, je marche tellement tous les jours que je sais pas. Mais ça pourrait faire partie de mes rêves, oui. Pourquoi pas?
C'est un peu la réaction que j'ai parce que je marche tous les jours depuis tellement longtemps aussi, 10, 15 kilomètres. Et à l'heure actuelle, je commence à ressentir le besoin peut-être un jour de
Attention,
faire un
Attention, on va partir
long...
ensemble, on va se faire un rêve.
On va se rejoindre en quelque part.
Ce que j'aimerais faire, c'est la Bretagne.
La Bretagne, pourquoi la Bretagne?
Parce que la Bretagne, elle a quelque chose de mystérieux.
Le côté celte un peu, le côté oui, médiéval.
Oui, qu'on
un
sent
peu,
beaucoup, et le contraste entre ce qui est dans la terre, ce qui est sur le bord de l'eau.
Oui.
Le paysage en Bretagne, il n'y a pas une anse qui se ressemble, ils ont tout quelque chose de différent. Alors cette marche-là m'intéresserait particulièrement. Compostelle, j'ai moins d'intérêt par les temps qui courent, parce que c'est devenu, je ne sais pas. Mais n'importe où, si j'ai une proposition, on part, on va marcher 2 semaines, oui. Ça, je le ferais plus à deux que toute seule.
Et pourquoi? Parce que,
il faut toujours penser. Hein. Comme je dis, on pense où on met le pied, puis on pense où est-ce que c'est. Donc, il y a toujours
t'as
toujours une responsabilité par rapport à toi-même et par rapport à toi. Alors qu'à deux, c'est une responsabilité partagée. À trois, à condition que les gens s'entendent bien, par contre. Parce que là, se mettre à faire de la psychologie en marchant, ça m'intéresse moins. Mais quand on sent les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes éléments, oui, je serais prête.
On parle des deux pieds sur terre, mais vous avez évoqué l'univers.
Oui.
Vous allez rejoindre l'univers en marchant?
Beaucoup.
Et comment?
C'est tellement étrange qu'on parle de ça. Ça m'émeut d'autant que je travaille sur un projet qui est la mise en valeur de la chute de la météorite dans Charlevoix. Un projet qui s'appelle Espace Hubert-Rive, branché justement sur l'univers. Et si Hubert-Rive a fait ce qu'il a fait, a mené la carrière qu'il a menée, c'est parce qu'il marchait. Et il a marché Charlevoix, il a marché de Baie-Saint-Paul jusqu'à Tadoussac, et sentir à travers le fleuve, tu vois, la puissance, l'univers qui est là. Je vais me permettre de citer Pierre Perrault, qui est devenu parce que sa femme était la fille du cratère, elle venait de l'île aux Coudres, et du petit gars de Montréal, elle l'a amené finalement à découvrir la puissance, et il disait du fleuve, « D'emblée, je le nommerai l'innommable, l'indicible, le fleuve de la démesure. » Et Hubert-Rive est habité par ce désir d'aller vers l'au-delà, d'être branché autrement. Et c'est sûr qu'être branché dans le cosmos, c'est drôlement important. Oui.
Et en quoi consiste le projet?
Ah, c'est un lieu qu'on espère qu'il va aboutir. On va envoyer le message au gouvernement. On est en appel de partenaires financiers. C'est vraiment... c'est une biosphère d'aujourd'hui.
Travailler donc, on retrouve beaucoup. Notre ami Bocky un peu. Là.
Bocky et Luc Courchain, qui a créé la Société des arts technologiques de Montréal. Et il est venu travailler dans le temps de la COVID d'un projet ensemble. C'est vraiment un projet ensemble où on a imaginé une sphère immersive à l'intérieur de laquelle on entre et qu'il y a plusieurs discours qui sont possibles. La chute de la météorite, tout autant que les peuples autochtones qui viennent nous rencontrer, leur manière d'être branchés à l'univers. Alors, c'est un projet qu'on espère vraiment qui va être et qui devrait être entre créer un festival international entre la science et les arts, les scientifiques pour la géologie, l'astronomie, l'astrophysique, et les artistes, parce que dans la région de Charlevoix, c'est le cégep de Jonquière, et ils ont créé une nouvelle école d'animation multimédia, et Denis Villeneuve, dans ses films, est allé épuiser beaucoup. Alors, les Québécois, là, on est pas mal. Moi, je suis fière d'être Québécoise.
Très bien, je pense. Oui.
Non, je dirais comme Charlevoix, hein, tout commence par un cul, finit par un bec.
Mais justement, parlons de respiration. Non, je blague un peu, mais nous avons mentionné également l'importance de la respiration qui nous aide à garder les deux pieds sur terre, qui nous aide à peut-être viser l'univers aussi.
Oui. Respirer, c'est vraiment être ensemble. Et c'est arrivé, on a besoin d'air pour vivre. Donc, chaque fois qu'on marche, on sait parfaitement qu'il faut inspirer, expirer. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, arriver à respirer ensemble, pour moi, c'est un cadeau.
Et respirer ensemble.
Oui.
C'est intriguant, ça.
Oui.
C'est comme... tout le monde respirait ensemble au même moment. l'énergie qui circule de la même façon.
Alors, j'aime bien votre remarque, cher Denis, parce que lorsque Marilyn Ferguson écrit « Les enfants du Verseau » dans les années 70, elle parle des conspirateurs. Et le mot « conspirer » veut dire « respirer avec l'autre ». Et elle dit « À travers l'univers, il y aura différents conspirateurs qui travailleront à changer ensemble. » Ce n'est pas les révolutionnaires. On n'en est pas là.
Intéressant.
Mais c'est conspirer, respirer ensemble. Ça me plaît beaucoup comme définition, si tu veux, d'être ensemble.
Nous allons donc respirer ensemble.
Oui, quel cadeau!
Vous avez parlé au tout début de l'émission, vous avez mentionné un mot que j'aime beaucoup, liberté. Est-ce que la marche, c'est la liberté ou la liberté vient par la marche?
Elle fait partie d'eux. Et qu'est-ce que la liberté? C'est l'acceptation des contraintes du système dans lequel on choisit de vivre. Il n'y a pas de système qui n'a pas de contraintes. Aller marcher pieds nus sur le bord du fleuve, il faut respecter là où on marche. Passer 10 heures du matin en plein été, vous allez vous brûler. Il faut être conscient de ça. Et pour moi, c'est ça la liberté. C'est vraiment sentir qu'on a cette capacité à pavoiser l'univers en respectant les contraintes dans lesquelles on se retrouve.
Oui.
Si on marche au Brésil, c'est pas de la même manière que si on est à Beijing, où là, on vient travailler avec les Chinois, mais on est sur surveillance aussi. Dans tous les pays, finalement, il y a toujours des contraintes. Il y a toujours des éléments. Et je les aime bien, moi, les contraintes.
Et pourquoi?
Parce qu'elles nous obligent à nous discipliner et à mieux conquérir cet espace de liberté qu'on choisit de vivre comme vie. Oui.
Est-ce que ça nous prend des balises?
Toujours. Vous avez des balises. Vous avez un ADN en venant au monde. Vous êtes déjà balisé. Alors, acceptez que vous avez des balises. Ça va être plus facile d'avancer dans la vie.
Et si on parle de Compostelle, là, effectivement, il y a des balises où, en fait, je dis Compostelle, mais les promenades ont des balises. La vie a des balises.
Bien sûr.
On peut choisir nos balises, peut-être.
Oui, mais on pense qu'on les choisit librement. Et un jour, on s'aperçoit finalement qu'elles ont été plus fortes que nous autres, ces balises. Elles nous ont rattrapées. Et c'est ça qui... Le fait qu'elles nous rattrapent, ça me donne encore plus mon sens de liberté.
Oh, intéressant.
Oui, l'illusion.
L'illusion de la liberté.
Oui.
Je reviens rapidement, on pourrait s'étendre longtemps, bien sûr, mais je reviens rapidement à la forêt.
Oui.
J'aime beaucoup la marche en forêt et les Japonais ont conçu cette philosophie de la marche en forêt, le Shinrin-yoku, où la forêt nous guérit, nous apporte ce dont nous avons besoin de façon très concrète pour nous apaiser, pour réduire le stress. C'est un peu ce que vous ressentez. Vous avez travaillé à Parc Canada, des forêts, vous en connaissez. Est-ce que lorsque vous étiez en forêt, justement, vous aviez cette paix intérieure?
Toujours. C'est-à-dire qu'il y a la paix intérieure à condition qu'il fasse beau. Hein? Parce que s'il fait mauvais, si l'arbre craque à côté de nous, il faut quand même être réaliste. Garder les pieds sur...
Les balises.
Oui, il faut quand même garder les pieds sur terre. Et je dirais que ça a été ça pour moi, mon apprentissage de la nature. Elle me prend comme je suis. Et je l'apprends comme elle est. Donc, apprendre à composer à travers tout ça. Mais le mot « forêt » m'a fait penser à un geste artistique alors que je marchais sur la plage de Trouville en décembre, pas cette année, mais il y a un an. J'ai vu une installation d'œuvres artistiques « Faut rêver »,« Forever ». Donc, c'est le jeu entre le mot « forêt ».
Oui.
Et c'est tellement touchant. Ce sont des journalistes qui ont travaillé en Afghanistan et qui ont vu l'horreur et qui ont vu tout ça. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ça? Aller répandre partout ça? Non, on va faire notre geste artistique ensemble. Ils ont joué sur le jeu de mots et l'accent sur le « e » de forêt, c'est un homme, c'est un être humain qui est là, qui fait cet accent circonflexe.
Oui.
Ça m'a tellement touchée de voir ça. C'est pour ça que pour moi, j'ai pas une seule réponse par rapport à vos belles questions. elle se déploie en permanence de mille et une manières. Et s'il y a une chose qui est importante à dire aux gens, marcher vous donne des ailes, vous permet de penser autrement, vous amène dans une autre dimension. Simplement se laisser porter en gardant les pieds sur terre, bien sûr.
Je ne sais pas si vous connaissez le sentier métropolitain. Il y en a un superbe à Bordeaux, en fait, qui fait pas mal le tour de la ville, 160 km, un peu le tour de l'île de Montréal, 160 km.
Je connais Bordeaux un peu, mais
et
je ne connais pas ça.
Il est parsemé d'œuvres d'art, donc rejoint encore la muséologie.
Est-ce que c'est récent?
Ça date de quelques années quand même. Il a été complété. Et très joli, très beau apparemment. Donc, encore une fois, le musée, objet d'art,
marche, tout ensemble.
Se rejoint là.
Et c'est d'autant, ça me touche d'autant que je suis allée travailler avec eux sur fleuve et patrimoine, la réflexion sur les fleuves et le patrimoine entre Bordeaux et Québec d'une certaine manière. Et Vassivière, par exemple, qui est un centre d'art contemporain, c'est l'intégration d'œuvres d'art dans ce lieu qui est situé en Corrèze et qui me faisait penser à la Mauricie. Je trouve que la part des artistes dans leur regard et le lien entre art et science est drôlement, drôlement important. Parce que c'est des intuitions sur comment comprendre l'univers. Avec des parties de cerveau qui travaillent différemment, mais d'être ensemble, ces deux parties-là, ils s'amusent.
Alors, il y a quelque chose de contre-intuitif. Vous avez également travaillé à un projet pour les non-voyants.
Oui.
On parle d'art, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, là.
C'était proche de l'art.
C'était proche de l'art, mais si vous pouviez nous en parler, je trouve très intéressant.
Alors, c'est formidable d'aboutir sur ce projet-là. J'avais un rêve. J'ai toujours aimé les chapiteaux historiographiés de l'art roman. Il me fascinait d'entrer dans les églises romanes et de voir la relation entre ce qui est plus mythique, mystère et tout ça. Et je me disais, dans un parc national, je rêverais de faire des plaques de bronze. Bon, alors là, on me demande de faire un sentier pour les aveugles. Et là, je dis, d'accord, on va faire des plaques de bronze. Parce qu'on peut toucher. Mais je ne pouvais pas arriver et parler de ma passion pour l'art roman, parce que là, il aurait dit, voyons, Annette Vielle, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors là, je cherche toujours l'élément rationnel. Une plaque de bronze sur le bord de la mer, ce n'est pas grugé par les eaux salines. Donc, ça va se conserver plus longtemps. La fonderie d'art d'Inverness venait d'ouvrir. Gérard Bélanger, ce grand artiste, avait pavoisé l'univers pour voir comment on faisait ça, a ouvert ce lieu-là. Et les artistes, avec Bernard Duchesne, qui est de Québec, qui a travaillé beaucoup dans le domaine du design, on a travaillé ensemble à faire Prélude à Forillon. Et pour que le projet passe, j'ai travaillé avec les aveugles, avec des gens sourds. On travaillait avec les handicapés moteurs, toutes les formes de handicap. Mais je réalisais qu'à chaque fois que je présentais le projet, les gens craignaient dans leur inconscient le propre handicap. Donc, j'ai changé de discours en disant, voici...
Ils craignaient d'être affligés un jour de ce handicap?
Oui. On a tous des peurs inconscientes. Oui. On est tous habités par ça. Donc, le projet est devenu un projet pour trois formes de handicap. Celui dont sont atteints 95% des Nord-Américains, le manque de temps. Donc, en l'espace de quelques minutes, dans l'espace d'un demi-kilomètre, ils découvrent c'est quoi Forillon, c'est quoi les pêcheurs, c'est quoi les mammifères, comment ils ont vécu, ils ressentirent l'esprit du lieu. Ensuite, handicapés moteurs. Les gens qui n'ont pas les bonnes chaussures pour marcher, hein, que ce soit le talon haut ou que ce soit le mauvais soulier, ben là, on leur fait un beau trottoir. Comme par hasard, ça sert aux chaises roulantes.
Et voilà.
Et là, pour les gens qui ont des difficultés à voir, les gens passés 45 ans, là, ça faut écrire plus gros. Donc, on va faire ça. Et en même temps, on va faire les plaques de bronze avec le braille. Et là, il y a l'échange qui se passe entre nos formes d'handicap pour ressentir l'esprit du lieu et être habité par ce lieu-là.
Merveilleux.
On est en 1988.
Et qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Voilà.
Non, j'ai une grande reconnaissance pour tous ces gens qui mettent leur cœur à travailler ensemble.
Mais oui.
Une grande reconnaissance.
Annette, nous partons de la nature et nous allons vers la ville.
Ah.
Et il y a eu cette rencontre un jour avec un certain Robert Lepage à Paris. Je pense que c'est au Palais des Découvertes, c'est
de
ça?
De la Découverte.
De la Découverte,
oui,
voilà.
Palais des Découvertes.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, j'ai toujours été fascinée par un homme comme Robert Lepage.
Oui.
On est au printemps du Québec, à Paris, c'est lui qui est le parrain. Et là, on est un côté de l'autre. C'est l'inauguration de l'exposition québécoise qui est là, de mes copains qui ont fait ça. Et il est à côté de moi, puis il me demande qu'est-ce que je fais. Je suis tellement intimidée que je réponds, je suis une vagabondance.
Vagabondance.
Oui.
Et ce mot n'existe pas.
Non, puis là, je suis mal à l'aise. Ben là, j'ai dit, parce que, excusez-moi, vous m'avez impressionnée, j'ai fait un jeu de mots avec le mot vagabondance et errance. Et
oui.
Comment, finalement, on est toujours en errance quelque part, et comment cette forme d'errance peut nous donner de l'abondance quand on vagabonde quelque part.
Oui,
donc,
oui.
C'est un jeu de mots qui est là. Ça me touchait d'autant qu'on rappelle ce fait que Robert Lepage a commencé ses premières expériences théâtrales à Parc Canada, le long de la rue Saint-Jean, à l'extérieur, auprès du public. Donc, comme dirait l'autre, tout est dans tout.
Tout est dans tout, oui. L'Abitibi. Voilà.
Ce cher Raoul.
Mais l'errance, c'est aussi vivre dans le moment présent.
Oui.
L'errance, on est vraiment sensible à tout ce qui se passe autour. C'est un peu le bonheur.
Oui, mais quand on se sent une étrangère dans son propre être profond, comme je me ressentais beaucoup, quand j'ai lu L'étranger de Camus, j'ai su que je n'étais pas perdue, mais qu'au contraire, ça existait ailleurs. Et j'ai vagabondé, j'ai erré jusqu'à ce que je comprenne ce que vous venez de dire si brillamment.
Ce n'est pas moi qui l'a dit, je répète seulement. À tout Seigneur, tout honneur, voilà.
C'est bien répété.
Et vous avez parlé aussi, mais en fait, ça nous rejoint et ça rejoint Cervantes un peu, non?
Ah mon
que
Dieu,
que vous disiez.
Oui. Cervantes, je suis très fascinée par... Rêver d'un impossible rêve,
oui.
Tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile, Télémaquette.
L'univers.
Et quand on voit que Cervantes a écrit Don Quixote en 1605, Champlain vient à Québec en 1603, signe un pacte de paix à Tadoussac avec les Autochtones et va revenir en 1608. Alors moi, je fais le lien entre Cervantes, l'ouverture d'une nouvelle modernité. Parce que s'il est aussi étudié sur le plan occidental dans les mythes, c'est parce qu'il personnifie l'importance de donner du sens à la machine. Alors il est toujours devant son moulin à vent, là, puis il cherche à donner du sens. Parce qu'on va passer des chevaliers du Moyen-Âge à une nouvelle quête de sens, qui est la quête du savoir. On va avoir l'impression que la science va nous donner toutes les réponses. Et fort heureusement, aujourd'hui, on revient dans apprivoiser le mystère du plus grand que soi. Et ça me réjouit. Alors, Cervantes et Don Quichotte me parlent beaucoup. Et j'ai écrit un article, Les Don Quichotte de la mémoire veilleuse, pour dire que quelque part, les muséologues cherchaient toujours à donner du sens et étaient des Don Quichotte.
Tout est dans tout. Formidable. Paris, vous aimez Paris.
Oh, j'adore Paris.
Vous avez marché Paris du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Quand je suis débarquée à Paris, je suis allée en 82, je suis allée en 72, en 81, puis en 90, seule, et j'ai l'impression d'être chez moi. Et là où je me retrouvais, c'était au bord de la Seine.
C'est l'eau?
Oui. Et je ne sais pas pourquoi, il y a l'énergie de Paris... Et j'ai terminé ma carrière au Muséum d'histoire naturelle de Paris, ce qui est un accident de parcours.
Vous avez vécu à Paris il y a quelques années.
Oui, j'ai vécu à Paris.
Vous avez enseigné
aussi. Oui, j'ai enseigné en muséologie. Mais Paris, je ne sais pas, l'énergie de la ville, la créativité, puis des symboles comme la Tour Eiffel.
Oui.
Et ça devait être démoli. Elle a été sauvée simplement parce qu'elle était une antenne, mais en 1889, après, on a trouvé qu'elle était ridicule, qu'elle était ci, qu'elle était ça. Puis elle a été sauvée parce qu'elle est devenue une antenne. C'est quand même extraordinaire pour la Première Guerre. Il y a plein de symboles. Beaubourg,
mm-hmm.
hein, le,
oui.
Beaubourg, c'était le quartier qui est en déshérence.
C'est ça.
Et c'est Renzo Piano et Roger qui font ce projet. Il y a des audaces, il y a des éléments, en même temps qu'il y a des choses qui nous emmerdent, là, mais rien n'est parfait. J'adore là. Oui.
Et vous parliez aussi de la Chine. Vous avez visité, marché la Chine. Ça vous a impressionné?
Beaucoup. Parce que j'ai réalisé que mes opinions sur la Chine ne pouvaient pas avoir de force parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire vivre sur un territoire 1 milliard de personnes. Et donc, je ne porte pas de jugement. Et j'ai collaboré avec les Chinois, mais c'est pas mon lieu, c'est pas mon truc, parce que je ne le comprends mm-hmm. pas, mais je suis fascinée. Et parmi les choses qui me fascinent, c'est toute leur culture, c'est leur symbolique, leur manière de rebondir, leur appartenance à la communauté, le Yiking, hein, que
oui.
Jung a travaillé avec le Yiking, le livre des transformations.
La plus grande sagesse.
Il y a quelque chose qui me fascine, qui m'attire et qui en même temps est un peu l'inaccessible étoile, parce que c'est trop...
Et vous avez marché beaucoup à Beijing ou ailleurs?
Oui,
en Chine,
oui,
c'est ça?
Oui, puis j'ai été à Qingdao, à Suzhou.
Oui.
L'être humain me fascine, avec ses
simplement.
Forces et ses faiblesses,
voilà.
Avec ses ombres et ses lumières.
Vous avez vécu en France, on l'a mentionné. Vous vouliez un jour partir de Québec, peut-être pour aller à Montréal.
J'avais besoin d'air.
Bon.
J'avais besoin d'air. Et Québec, j'ai compris maintenant le sens de la ville de Québec. J'ai mis du temps et c'est grâce à la topographie que j'ai compris pourquoi Québec, à l'époque, je la sentais comme une ville
oui.
fermée.
Oui. Alors, vous habitez Paris
oui.
et vous décidez de revenir
oui.
au Québec,
oui.
non pas à Montréal, mais à Québec
oui.
même. Pourquoi?
Alors, d'abord, si je choisis de revenir au Québec, c'est pour ce que j'ai appelé le raffinement du cœur des Québécois. Ce sont des gens de cœur, les Québécois. Moi, ça m'a plu, cette réflexion-là, de me dire, voilà, je choisis librement de revenir à Québec et je veux être à Québec à cause de la force de l'ancrage du territoire. Parce que la ville de Québec, d'abord, choisir d'être ici, ça me permettait d'être proche du fleuve, d'être proche de la forêt.
Retour au fleuve.
D'être proche de la nature. Mmh. Très, très... Puis à 10 minutes de l'aéroport aussi. Donc,
oui.
en même temps, c'est pas pour aller...
C'est pratique.
C'était très pratique. Mais là, quand j'ai vraiment plus réfléchi, on m'avait demandé de faire des chroniques pour Jacques Languérand sur le site Repère, sur l'esprit des lieux. Et j'ai voulu commencer à Québec. Et là, j'ai jasé avec un de mes bons amis, Michel Barry, qui est géographe, pour qu'il m'explique Québec comme faux. Et c'est là qu'il m'a expliqué le lien avec les Appalaches, le lien avec les Basses-Terres du Saint-Laurent et le lien avec le bouclier canadien et les Laurentides. Et tout à coup, j'ai compris qu'être Québécois, c'est d'être là gardien, de voir d'où viennent les choses, parce que tu es branché sur l'ensemble de la planète. Montréal, c'est un archipel. C'est un lieu de convergence où tu vas dans le Grand Nord, tu vas dans l'Ouest, tu vas aux États-Unis, tu vas tout ça. On peut être dans un bouillonnement culture à Montréal. On est dans le lieu de convergence. Mais Québec est la gardienne. Québec veille. Québec surveille. Québec est là. Et j'ai travaillé avec des artistes à la Galerie Vue, et ça s'appelle « Les chemins empruntés », le thème. Et un des artistes a travaillé avec un immigrant berbère qui est un gardien de piscine. Et il a fait parler de son lien avec la ville. Et cet être qui vient du sud du Maroc berbère l'a amené sur les plaines d'Abraham et lui a dit « Ici, je me sens chez moi.
»
Avec son téléphone branché sur sa rivière, branché sur ses choses. Alors moi, ça m'a tellement ému qu'après toutes ces années, j'ai cette confirmation qui me vient comme ça. C'est un cadeau de la vie, de regarder le territoire, de le sentir, de l'apprivoiser et de comprendre davantage la topographie qui fait corps avec nous. On est un corps, mais la Terre est un corps. Donc, comment, finalement, on compose avec tout ça? Alors, je suis très heureuse d'être revenue à Québec.
Et une porte sur l'univers.
Oui, en même temps, oui. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que d'être branché sur le plus grand que soit, c'est toujours un élément structurant.
Alors, Annette, merci beaucoup de votre accueil et nous vous laissons à votre fleuve.
Merci à beaucoup. Bientôt. Il est très content, mon fleuve.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Alors, chers amis, bonjour. Nous retrouvons aujourd'hui chez lui, à Québec, Michel O'Neill, notre serein pèlerin, pour une autre de ses chroniques Marche et politique. Bonjour Michel et bienvenue.
Eh bien, bonjour Denis, toujours heureux de vous retrouver et votre auditoire.
Alors d'abord, Michel, rappelez-nous de quoi vous nous entretenez lors de cette série de chroniques.
Bien, ça part, comme vous savez, Denis, de votre ouvrage « L'homme qui marche partout », où il y a votre cercle de la marche, où il y a différentes pointes et différents éléments qui conduisent au bien-être à cause de la marche. Et il y en a une qui, moi, avec mon œil de sociologue, m'interpellait particulièrement, qui était « changer le monde ». Et « changer le monde », vu que c'est souvent des aspects collectifs des marches qui sont impliqués pour ce changement du monde-là. Alors, c'est ça qui m'a donné le goût de créer cette série de chroniques. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une marche vraiment emblématique du mouvement féministe québécois qui a eu lieu durant les années, en 1995, la marche du pain et des roses. Et cette marche-là a par la suite donné lieu à un mouvement international, la marche mondiale des femmes.
Rappelez-nous, qui a organisé cette marche et quels étaient ses objectifs?
En fait, la marche a été organisée par la Fédération des femmes du Québec, à un moment où le féminisme se cherchait peut-être un peu. En 89, massacre de Polytechnique, première moitié des années 90, assez morose, mesures néolibérales conservatrices de Mulroney, récession du début des années 90. Alors, la Fédération des femmes se cherchait un peu un événement mobilisateur pour le mouvement féministe, qui était un peu plus tranquille à ce moment-là. Et Françoise David est élue à la présidence de la Fédération des femmes du Québec en 94, et elle en fait son cheval de bataille. Alors, ça a pris un an de préparation, et moi, j'avais eu la chance de connaître Françoise à l'ère des centres de femmes où elle travaillait avant, qui était le regroupement des maisons ou des maisons des femmes du Québec. Et donc, elle a été, Françoise, la grande inspiratrice avec deux co-organisatrices, avec des noms dont on va encore entendre parler longtemps après, Manon Massé.
Ah oui.
Et Diane Matt, qui était la logisticienne en chef. Cette marche-là visait à dénoncer la pauvreté en général, étant donné la morosité de la période et la difficulté, et en particulier la pauvreté des femmes, ainsi que la violence faite aux femmes, qui va devenir un peu le deuxième thème central de la marche mondiale des femmes. Mais c'était d'abord pour lutter contre la pauvreté. Et il y avait 9 revendications, c'était très précis. Mm-hmm. Des revendications pour un programme d'infrastructure sociale d'emploi, l'équité salariale, augmenter le salaire minimum, etc. Donc, 9 revendications très précises, dont la dernière était le gel des frais de scolarité puis l'augmentation des bourses aux étudiants.
Alors, c'est tout un programme avec des éléments de revendication très variés, comme vous l'avez noté. Pourquoi a-t-on choisi de l'appeler « Du pain et des roses » ?
En fait, le nom complet officiel de la marche était « La marche des femmes contre la pauvreté ». Et on a référé à « Du pain et des roses » parce qu'il y a eu, en 1912, au Massachusetts, à Lawrence, au Massachusetts, une grève très fameuse de femmes, de 20 000 ouvrières dans l'industrie du textile qui s'appelait Bread and Roses. Donc, on a repris un peu cette thématique. Le pain symbolisant le travail et les meilleures conditions économiques, alors que les roses, ça célébrait davantage une qualité de vie. Et c'est très intéressant parce qu'on a été capable d'avoir 11 marraines officielles pour cette marche-là, qui était vraiment pas banale, dont des écrivaines fameuses comme Anne-Marie Alonso, des femmes qui venaient des milieux de la diversité ethnique, une chanteuse de jazz, France Castel, Chantal Petitclerc, la paralympienne, Marie-Josée Turcotte, la journaliste sportive. Mm-hmm. Donc, vraiment, une brochette de personnalités importantes, un mélange de célébrités, de personnes moins connues, reflétant une bonne diversité ethnique et professionnelle, à l'image des femmes du Québec d'alors et d'aujourd'hui.
Alors, comment s'est déroulée la marche?
En fait, ça a duré 10 jours. Du 26 mai au 4 juin 1995, il y a eu à peu près 850 femmes et quelques hommes qui ont marché. Les hommes étaient relativement bienvenus, mais pas nécessairement. On ne s'attendait pas là, qu'ils soient sur la ligne d'en avant. Là. Mm-hmm. Il y a eu 3 points de départ. Il y a des gens qui partaient de Montréal, de Longueuil et de Rivière-du-Loup. Et ça a quand même requis une logistique assez incroyable avec des centaines de bénévoles pour héberger, nourrir tout ce monde-là. Les personnes étant passées dans 27 municipalités différentes, là, puis ils marchaient le long de la route, oui. Donc il fallait que la sécurité soit là aussi. Ils sont arrivés, en fait, le 4 juin, devant l'Assemblée nationale, et là, on estimait entre 15 000 et 18 000 personnes, le nombre de personnes qu'il y avait là, et j'ai eu la chance de marcher la dernière journée, en fait, avec une de mes amies, Marie-Josée Potvin, qui, elle, faisait partie de la gang de Rivière-du-Loup. Donc, j'ai marché du pont de Québec à aller jusqu'au Parlement avec en arrière, avec Marie-Josée. Et l'atmosphère était vraiment très impressionnante, en particulier la solidarité des marcheuses. Il n'y avait pas fait beau en général, il n'y avait plus plusieurs jours. Ça a été vraiment un événement majeur.
Donc, c'est un grand événement dans l'histoire contemporaine. Comment peut-on évaluer les résultats de cette marche?
En fait, il y a eu plusieurs types de résultats qui sont sortis de cette marche. Le premier, c'est peut-être qu'il y en a souvent des marches là, qui s'en vont au Parlement. Là, puis,
oui.
Très souvent, ils se cognent le nez sur pas beaucoup de journalistes et c'est très peu couvert. Mm-hmm. Eux, ils ont été très, très couverts de façon médiatique, de façon impressionnante. Et surtout, le premier ministre du temps, Jacques Parizeau, et plusieurs ministres étaient là pour les accueillir quand ils sont arrivés. Alors, c'est pas, il y a ça.
C'est pas banal.
C'est pas banal, mm-hmm. Vraiment pas banal. Sur les 9 revendications qui étaient dans la liste, bien sûr, les 9 n'ont pas été toutes acceptées, mais il y a eu quelques gains assez importants sur l'équité salariale, l'augmentation du salaire minimum, puis certaines mesures pour contrer la pauvreté. Troisième série de résultats atteints, bien, en fait, on connaît maintenant le nom de Françoise et de Manon, parce qu'elles ont été, à partir de ce moment-là, dans l'image publique, des personnes très notoires. Elles vont devenir des politiciennes toutes les deux, dans Option nationale, puis ensuite de ça, dans Québec solidaire, dont elles vont être successivement les porte-parole, donc voilà. Comme les chefs de parti, ça on peut dire. Alors, ça aussi a été un résultat important. Et peut-être le plus marquant, c'est qu'on a développé, à partir de du pain et des roses, une marche mondiale des femmes.
Ben justement, parlez-nous de cette marche mondiale des femmes.
En fait, c'est à suite au succès de 1995. Là, les gens de la Fédération des femmes ont dit « ça a marché, fait qu'on devrait essayer de mondialiser cette marche-là ». Mais là, les gens de la Fédération étaient un peu essoufflés, là, parce que c'était quand même un gros contrat. Alors, ils ont décidé de valider, voir si à Pékin, aux assises internationales des groupes féministes qui avaient lieu une fois par année, s'il y avait un intérêt pour ça. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt, au point où on s'est dit en 98, on part. Donc, à partir de 98, on a organisé la première marche mondiale des femmes en l'an 2000. Et puis, à chaque 5 ans, depuis ce temps-là, il y a un événement de marche mondiale qui se passe. Et habituellement, c'est coordonné à partir du Québec. Ça se passe généralement entre la Journée mondiale des femmes le 8 mars et la Journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté le 17 octobre. Alors, dépendant des années, ça se déroule de façon un peu différente. Mais si on regarde en 2000, par exemple, il y a eu plus de 6000 organisations dans 161 pays.
C'est énorme.
Ah oui, c'est comme... alors, les gens sont mis en marche dans leur village. Il y avait des revendications qui sont allées... qui ont été portés à différents endroits. Et puis, à Montréal, le 14 octobre 2000, il y a eu plus de 40 000 personnes qui sont venues pour porter les revendications au Québec. En 2005, 5 ans plus tard, c'est une charte mondiale des femmes pour l'humanité qui a été mise en œuvre, en fait. Et entre le 8 mars et le 17 octobre, c'était très particulier parce que ça a été comme une charte à relais. Il y avait 53 pays sur 5 continents qui étaient impliqués. Et là, ben, ça marchait un peu dans un pays. on faisait un morceau de tissu du pays, et là, on envoyait ça dans le pays d'après, où c'était, le morceau de tissu était repris, la charte était reprise, et ça se promenait comme ça. Alors, ça s'est passé au Québec, en fait, dans la capitale nationale, c'était à Québec, ça a été accueilli par plus de 15 000 personnes. C'était l'avant-dernière étape, et ça s'est terminé au Burkina Faso le 17 octobre 2005. Alors, une autre manière de faire, mais à chaque fois, des événements extrêmement importants.
Importants et planétaires.
Et planétaires. 2010, on a encore fait un autre type d'utilisation de cet événement-là pour faire quelque chose de plus d'éducation populaire. Plus nécessairement aller plaider devant les gouvernements, mais se retourner vers les populations pour essayer de faire une animation autour de ça. Et au Québec, ça s'est terminé à Rimouski. C'est intéressant parce qu'on cherche à varier les endroits aussi où l'événement majeur a eu lieu. Alors, en 2010, c'était à Rimouski. En 2015, ça se portait sur « Libérons nos corps et nos territoires ». Et ça s'est terminé au Québec avec une dizaine de mille personnes le 17 octobre à Trois-Rivières. En 2018, il y a eu une espèce de transformation de l'organisation en une organisation à but non lucratif, parce qu'avant, c'était encore la Fédération des femmes qui portait ça. 2020-2021, bien là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que, bien entendu, il y avait la pandémie. Et la prochaine marche, en fait, mondiale des femmes, 5 ans encore, en 2025, devrait avoir lieu le 17 octobre 2025. Et sur le site de la marche mondiale des femmes, on a déjà des détails comment ça s'en vient.
Alors, Michel, c'est toujours un plaisir d'accueillir à nouveau votre œil de sociologue qui nous ouvre à des perspectives insoupçonnées sur la manière dont les dimensions collectives de la marche peuvent contribuer au bien-être collectif et évidemment par extension individuel. Merci beaucoup, Michel, encore une fois, et à la prochaine.
Ça m'a grandement fait plaisir.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et en rediffusion les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci beaucoup à notre invitée Annette Vielle d'avoir partagé si généreusement ses impressions de la marche et à Michel O'Neill, notre serin pèlerin, de nous avoir présenté le volet du pain et des roses de sa chronique « Marche et politique ». Merci également à notre souriant collaborateur et complice à la technique, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse sur cette citation de Jean Jaurès. C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.